Bienvenue sur le podcast Le français avec Yasmine. Je suis Yasmine Le Cire, professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Island French. Une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec Le français avec Yasmine, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Cette semaine, j'ai invité mon amie Jolene, maquilleuse professionnelle à Paris. Elle est franco-américaine et je voulais qu'elle partage avec nous son histoire avec la langue française et la France. Sa maman est française, son père est américain. Elle est née et elle a grandi aux États-Unis et bien qu'elle soit française et qu'elle venait en France très souvent pendant qu'elle était petite, pendant les vacances d'été, ce n'est qu'à ses 18 ans qu'elle déménage pour de bon et qu'elle s'installe en France, pays où elle n'avait jamais vraiment habité. L'histoire de Jolene est similaire à beaucoup de personnes qui ont la double nationalité ou qui ont des enfants qui ont la double nationalité. Donc Jolene est française, mais elle n'a pas grandi en France et elle n'a pas été scolarisée en français. Alors, est-ce qu'elle se sent différente des autres Français? Est-ce qu'elle se sent plus française ou plus américaine? Est-ce que son installation en France a été compliquée? Elle nous raconte comment elle a fait pour s'intégrer en France et à Paris après ses 18 ans. Quand elle est arrivée, même si elle parlait très bien français, elle ne le parlait clairement pas comme les Parisiens qui avaient été baignés toute leur vie dans la langue française. Et donc, dans cette interview, elle partage avec nous ses premiers pas en France et aussi comment elle a fait pour s'intégrer très facilement. Tu verras, ça n'a pas été facile, tu t'en doutes. Je me reconnais dans son histoire car je suis aussi française. Je suis née en France et j'ai grandi en Belgique. Je me suis installée à Paris en 2016 et j'ai toujours eu un lien très fort et très proche avec la France et beaucoup de personnes me demandent « Mais en fait, tu es belge ou tu es française ?» Alors, je suis les deux et il y a des jours où je me sens plus belge que française et c'est une question difficile car quand on a plusieurs nationalités et plusieurs cultures, on les aime toutes, mais parfois de façon et d'intensité différente. Par exemple, je vais partager un secret avec toi. Pour le foot, je serai toujours pour la Belgique. toujours. Et puis après, si la Belgique se fait éliminer, je serai pour la France. J'ai adoré faire cette interview avec Jolene. Je sais que beaucoup d'entre vous ont peut-être des doubles nationalités ou sont en train de faire des demandes de nationalité française ou peut-être que vous avez des enfants qui ont la double nationalité. Donc, c'est hyper inspirant de savoir est-ce qu'il faut choisir ou pas une nationalité. La réponse, évidemment, c'est non. Mais vous n'êtes pas seul. Excellente écoute. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle interview du podcast Le Français avec Yasmine. Aujourd'hui, mon invité, c'est Jolene. Salut Jolene.
Salut.
Comment ça va?
Bah, ça va tranquillement. Là, il fait un peu froid dehors à Paris, mais ça va.
Oh mon Dieu. Jolene, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter?
Bien sûr, avec plaisir, Yasmine. Alors, moi, c'est Jolene. Je suis franco-américaine, j'ai grandi en Californie, mais je vis en France depuis longtemps maintenant. Je suis maquilleuse professionnelle, donc je suis dans un milieu créatif et ça me plaît beaucoup, j'adore Paris et ma vie parisienne.
Donc tu as grandi aux États-Unis et à quel âge tu es arrivée à Paris?
C'était une semaine après mes 18 ans. en 2007.
Donc. Et pourquoi? Pourquoi Paris?
Et pourquoi Paris? Eh bien, donc, comme j'ai dit, je suis franco-américaine et donc c'est ma maman qui est française. Elle est née en France, elle a grandi en France, dans la région parisienne. Et du coup, elle a décidé de faire sa vie en Californie. Donc après, moi, je suis née et tout ça. J'ai grandi là-bas, mais j'ai passé quasiment tous les étés en France, chez mon grand-père, dans le sud-ouest de la France, entre Bordeaux et le Pays Basque. Et donc, je connaissais bien la France, toute ma famille était en France. Paris, j'ai toujours eu un coup de cœur pour Paris. Ma grand-mère était parisienne et malheureusement, je ne l'ai jamais connue. Mais Paris, pour elle, était vraiment très cher. Et du coup, j'avais envie de connaître Paris, de connaître sa Paris, son Paris, sa ville. Et, et du coup, depuis un très jeune âge, j'avais envie de faire aussi de maquillage. Et donc, j'ai décidé de venir à Paris pour apprendre le maquillage. Et donc, j'ai trouvé une école. Et voilà, donc après avoir eu notre équivalent du bac, j'ai fini le lycée, de graduation, comme on dit, je suis partie, j'ai déménagé en France.
Et donc du coup, tu arrives en France, tu es toute seule, donc c'est oui. Ton pays parce que tu es française, mais tu oui. N'avais jamais habité en France avant.
Non, non, juste les vacances. Et donc j'avais quand même une image un petit peu... pas une vraie image, si on veut, de Paris, mais je l'ai quand même adoré. Du coup, une fois que j'ai pris la décision et j'étais là, bon, j'ai jamais regardé en arrière.
Est-ce que tu as connu des difficultés quand tu es arrivée à Paris au début?
Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, pas les mêmes que d'autres Américains, si on veut. J'ai jamais eu de problème de visa. J'ai pas eu de problème pour ouvrir un compte bancaire, par exemple, tout ça. Mais moi, mes difficultés, il y a 16 ans, à 18 ans, je ne parlais pas comme ça. Le français comme ça, je comprenais le français. Bon, je parlais, mais j'avais peur. J'avais jamais vraiment pris de cours de français. Ma mère étant française, j'ai appris le français en parlant, comme ça, à l'oral. Et donc, écrire, c'était compliqué. Lire à haute voix, c'était un petit peu compliqué aussi. Et donc, tout ça, il fallait que j'apprenne sur place. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai jamais pris de cours, mais... Voilà, c'était en allant à l'école, du coup j'étais la seule étrangère, tout le monde était français à l'école. Donc quand les profs donnaient des cours, moi je prenais des notes en anglais. Donc j'écoutais en français et dans ma tête ça a toujours été un petit peu la même langue, j'ai jamais traduit dans ma tête. Et du coup j'écoutais en français, j'écrivais en anglais. Bon, ça, c'était pas forcément une difficulté, mais voilà. Parler avec les autres, de m'habituer à... Comment expliquer ? Se faire des amis à Paris, c'est pas facile. Tu peux demander à n'importe qui, des étrangers, ils disent toujours que c'est très difficile et c'est pas faux. Les Français ou les Parisiens, peut-être, ils sont très fidèles à leur groupe d'amis déjà créé depuis des années. Et donc, pour moi, c'était un petit peu difficile de faire des amis, de me faire des amis, de m'habituer. Puis, c'est vrai, j'avais 18 ans, j'étais seule. Donc, je savais pas cuisiner, tout ça. Et tout. Enfin, je vois. J'ai mis quelques années d'être à l'aise et de grandir parce que j'étais un enfant, quoi. À l'époque, bon, j'étais adulte. Hein. Dans ma tête, j'étais bien, j'étais adulte, j'étais mature. Ce qui n'est pas faux, j'étais assez mature pour mon âge. Mais... j'ai survécu. et comme j'ai dit, en fait, quand je suis quelqu'un de... Bon, on peut dire... têtu, moi je dis que je suis assez forte, je suis forte que quand je prends une décision, je regarde jamais en arrière. Et en fait, ça m'a aidé, le fait de jamais lâcher.
Et comment tu as fait ? Parce que forcément, c'est pour ça que je voulais t'inviter dans le podcast, ouais. Parce qu'évidemment, comme tu as grandi aux États-Unis, que ta maman est française, donc tu as quand même deux identités. Le fait d'arriver en France quand tu es adulte et tu n'avais que des liens avec la France, avec les vacances, avec les grands-parents et tout ça. Comment tu as fait pour... après avoir confiance en toi et en ton français, parce qu'évidemment, quand tu arrives à Paris, tu vois, tu as ceux qui sont nés à Paris, qui sont grandis à Paris avec leur français bien ancré et tout. Et puis le tien, comment tu as fait pour surpasser cette peur ou ce doute?
Eh bien, je n'avais pas le choix. En fait, j'ai passé... Mais c'est vrai, tu rigoles, mais c'est vrai. Quand tu te retrouves face au truc... Tu n'as pas le choix, tu es obligé de te débrouiller Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc, en fait, toute mon enfance, j'avais toujours ma mère à côté de moi pour traduire si besoin. J'osais jamais parler parce que je ne voulais pas, un, avoir un accent américain, et de deux, je ne voulais pas faire de fautes. Mm-hmm. Parce que je me disais, ah, oh, ils vont me trouver stupide.
Mère, elle te corrige.
Voilà. Donc, mm-hmm. ma mère, bon, elle me corrigeait pas, mais j'avais toujours un peu peur, j'osais pas. Et du coup, elle était toujours là pour parler avec moi ou parler pour moi. Mais du côté, moi, je comprenais tout. Je sais juste que j'osais pas parler. Et je sais pas pourquoi j'ai décidé de vraiment venir à Paris, parce que quand j'y pense, mon niveau de français était quand même pas vraiment là, mais j'ai pas pensé à ça. Et en fait, du coup, quand je me suis retrouvée seule à Paris, à 18 ans, à l'école, voilà, entourée de français, je n'avais pas le choix. Et je faisais des fautes, tant pis, il fallait que je m'exprime, il fallait que je parle avec les autres. Quand j'ai commencé à travailler, à faire des stages, donc dans mon école de maquillage, les stages pour nous, c'était les stages, c'était des shooting photos, c'était des courts-métrages, c'était travailler pour les marques en magasin, genre Sephora. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à faire ça, c'est là où j'ai vraiment appris les bonnes phrases, j'ai appris à vouvoyer. Parce que moi, dans ma famille, on n'a jamais vouvoyé. Donc, je n'ai pas vraiment appris comment vouvoyer. Et en fait, c'était quand j'allais avoir 19 ans. Donc, c'était après mon première année d'école. J'ai fait un mois de stage pour Armani Beauté sur les Champs-Élysées, à Sephora Champs-Élysées. Et c'est là où j'ai appris tellement de choses. Et c'est juste en écoutant les autres. Et répéter. J'écoutais, j'apprenais, je répétais, et voilà, c'est comme ça que j'ai appris, et ça a pris quelques années, mais au bout de 2-3 ans en France, j'étais complètement bilingue. Mais c'est parce que je n'avais pas le choix. J'avais personne pour traduire. À l'époque, bon, FaceTime, les smartphones, ça n'existait pas. Donc ma famille, les amis aux États-Unis, en fait, je parlais jamais l'anglais. C'était que du français, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était le fait d'être complètement entourée de français, de la langue française. Ça, c'est ça qui m'a vraiment aidée. Mais c'est parce que je n'avais pas le choix. Voilà.
Ne pas avoir l'urgence et ne pas avoir le choix. C'est vrai que tout d'un coup, on est bilingue.
C'est ça. Parce qu'en fait, je me suis surprise parce que je me suis dit, ah, mais en fait, je sais parler, je peux parler, je connais beaucoup de mots. Et c'est juste, il fallait juste oser. De plus avoir peur de fautes, d'accent. Et en fait, je me suis dit, bon, en fait, ça va. Je me débrouille assez bien.
Oui, ça va.
Ouais.
Oui, tu t'es débrouillée assez bien.
Ouais.
Mais il y a aussi cette peur qui est... J'ai l'impression que cette peur, elle est renforcée à Paris, où étant donné que les francophones, surtout les Parisiens, sont très exigeants, tu sais, ils se moquent entre eux, par exemple, s'il y en a un qui essaie de faire trop l'accent anglais quand tu prononces un mot. Donc, si tu dis « internet », mon Dieu, mais à table, c'est fini. Hein, tous tes amis sont au-dessus de la table en train de rigoler. « Ah, tu dis « internet »
Carrément.
Oui, non, ils sont, c'est... Donc, pour les personnes qui nous écoutent, une petite parenthèse, les Français, entre eux, ils ont une relation très particulière avec la langue anglaise. Donc, si tu es francophone natif et que tu prétends trop bien prononcer l'anglais, on se moque de toi. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais il y a un truc.
Et c'est pour ça, quand je prononce des mots anglais en français, c'est jamais avec mon accent américain. Donc, si je veux manger un brownie, c'est une brownie. Si je parle de un manager, voilà, c'est, je vais pas dire ah oui, ton manager est vraiment cool ou ce brownie est vraiment bon. C'est brownie, c'est pas brownie.
Un brownie, exactement.
Il faut s'adapter,
non mais c'est fou,
hein. C'est vrai, c'est drôle.
Est-ce que tu dis aussi hamburger?
Hamburger, ouais, je pense.
Ou tu dis burger?
Un burger.
Un burger.
Oui. Oh, c'est horrible, je devrais pas, mais ouais, ça sort tout seul.
Ouais, ben ici, ouais, on prononce tout, tout est francisé, de toute façon, on regarde googlisé. Followers,
Instagram.
Instagram. Exactement. Joline, aujourd'hui, est-ce que tu te considères... Parce que ce qui est aussi intéressant avec ton profil, c'est que forcément, bah, tu as deux nationalités, donc ouais. Tu as deux identités. Comment tu te définis? Est-ce que tu te définis plus comme... Quand on te demande, tu viens d'où? Qu'est-ce que tu réponds?
Oh, je viens d'où? C'est toujours difficile de répondre. C'est toujours difficile d'être entre deux pays, donc les États-Unis, la France, pour moi, dans mon cas. Toute mon enfance aux États-Unis, on était les Français. J'étais la Française, la Frenchie. Mmh. Ici, je suis américaine, la Californienne. Mmh. Bon, avec les gens qui me connaissent, hein, parce que bon, si je parle en français avec quelqu'un, avec un étranger, un inconnu, ils vont pas forcément se rendre compte que je viens des États-Unis. Mon accent est pas forcément américain. J'ai un petit accent, on sait pas trop d'où je viens. Souvent, c'est au moment où je dis que je viens de la Californie ou j'ose prononcer un mot correctement en anglais, qu'ils disent « Waouh, c'est quoi cet accent américain? Tu viens d'où ?» Et là, on me traite complètement différemment. C'est incroyable. Si on me parlait pas trop avant, la minute où ils apprennent que je viens de là-bas, forcément, là, d'un coup, je suis cool. C'est incroyable. C'est un peu pénible. Mais bon, identité, ça dépend du jour. S'il y a des jours, ça dépend du sujet. Est-ce que je suis plus américaine? Est-ce que je suis plus française? Franchement, ça dépend. Je me sens pas très, très américaine, mais je me sens assez parisienne. Mais ouais, franchement, c'est vraiment difficile. Hein. Je pense que tu peux comprendre aussi, avoir deux nationalités, tu vas toujours être entre deux pays, entre deux cultures, entre deux villes, par exemple. Moi, c'est Los Angeles et Paris, toujours. C'est très différent. Mm-hmm. C'est toujours, on me demande toujours, mais qu'est-ce que tu préfères? Quelle ville? Tu préfères Paris ou Los Angeles? Tu ne peux pas comparer, les deux endroits sont différents. J'aime les deux. Il y a des choses que je n'aime pas dans les deux endroits. Il y a des choses que j'aime dans les deux endroits. Ouais. J'aime mes deux pays. Je suis mélangée.
Ouais, ben, moi, je vis la même chose. Oui, mélangée. Ben, je vis la même chose que toi. Donc, née en France, grandie en Belgique.
Ouais.
Après... En général, bah, je pense que j'ai plus une mentalité belge parce que parfois, quand je vois comment certains Français se comportent, je dis « Ah non, mais ça, c'est pas, c'est pas
non,
moi. »
Non, je comprends complètement.
Mais après, voilà, en plus, la langue est la même, tu vois. Mais par exemple, certains Français vont considérer que le français de Belgique, c'est un sous-français, alors que c'est exactement la même chose. Après, comme toi, enfin, moi, j'ai des personnes qui me demandent, qui entendent mon accent, mais qui savent pas d'où il vient. Voilà. Et donc, après, quand je dis oui, c'est l'accent belge, elle dit, ah, mais pourtant, ça, on n'entend pas que c'est un accent belge. Après, c'est toujours bien reçu. Donc, même si la Belgique a toujours été considérée comme un sous-pays, les gens disent, ah, moi, j'aime bien les Belges.
Tant mieux, parce que moi, c'est pas toujours le cas. On a toujours un truc à dire sur les États-Unis, on a toujours un truc à dire sur les Américains. Bon, quand je suis là-bas, tout le monde alors adore la France. Aux États-Unis, Paris, tout ça, c'est le rêve. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ouais, donc je comprends. C'est pas toujours facile.
Quelles sont les remarques qu'on a déjà faites sur les États-Unis quand tu étais en France?
Ah, bah c'est souvent politique. La nourriture est vraiment horrible aux États-Unis parce qu'ils pensent qu'on mange que des burgers et des frites, alors que c'est pas le cas. C'est souvent des choses comme ça. Bon, après, il y a forcément des Français qui aiment les États-Unis, c'est très beau, c'est ci, c'est ça, mais les gens qui passent une semaine dans ton pays et puis ils ont 100 trucs à dire sur ton pays, ils disent bah, ok, t'y es passé une semaine seulement, ça va.
Non, mais ça, c'est les pires. Et en plus, faut quand même savoir que la plupart des Français sont convaincus que la seule et unique cuisine qui existe au monde, c'est la française et que toutes les autres sont des sous-cuisines. Ils respectent un petit peu l'italienne quand même. Il y a quand même respect pour la cuisine italienne. Oui, quand même. L'italienne est considérée, mais sinon tout le reste, parfois, tu as des remarques. Moi, j'ai un jour qui m'a dit que tant que les personnes ne connaissaient pas la cuisine française... genre il leur manquait un truc dans la vie, quoi. J'ai dit non, mais t'es fou. C'est quoi ce truc? Non, mais il y en a, en fait. Mais ouais. Je ne sais pas d'où ça sort, quoi. Pourtant, il y a des cuisines du monde entier qui sont fabuleuses. Et surtout aux États-Unis, bah, y a beaucoup plus de diversité en termes de cuisine, enfin, en tout cas en Californie. Trouve un bon Mexicain à Paris.
Oh bah, bonne chance. Ça fait 16 ans que je cherche, Yasmine. 16 ans. Je n'ai toujours pas trouvé.
Donc, les personnes qui écoutent ce podcast, qui habitent à Paris, si vous connaissez un bon Mexicain, s'il vous plaît, envoyez-moi un DM.
Yes, on ira.
On veut manger Mexicain à Paris. Oh ouais, cuisine mexicaine, c'est tellement fantastique.
Ça me manque.
Tu m'étonnes. Au niveau de ta carrière, est-ce que tu as... Donc, tu as suivi une formation de maquilleuse ici à Paris. Mm-hmm. Après, tu as fait des stages. Et ensuite, tu as travaillé pour quelqu'un. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours professionnel?
Ouais, bien sûr, avec plaisir. Donc, du coup, j'ai fait une école de maquillage qui s'appelle ITM, Institut Technique du Maquillage. C'était une formation de 3 ans, donc vraiment extrêmement complet. Souvent les formations make-up c'est genre 6 mois, 9 mois, c'est ça, c'est des formations, là c'était vraiment une école. Et après ma deuxième année, donc voilà, moi j'étais au taquet, donc c'est mon côté américain, pour ça je suis plus américaine, je suis au taquet, je fonce, je faisais tous les stages, j'essayais de faire tous les contacts, de vraiment connaître du monde, parce que c'est... Il n'y avait que comme ça que j'allais travailler après, c'est en faisant des contacts à l'école, en faisant des stages. Et en fait, après ma deuxième année, donc la troisième année de cette école, c'était en alternance. Donc, elle n'était pas obligatoire. Donc, toutes mes copines de l'école, elles n'allaient pas faire la troisième année. Elles se sont dit, bon, ça va, c'est bon, après 2 ans, je n'ai pas besoin de faire la troisième année. Moi, je ne me suis pas sentie prête parce que je n'avais toujours pas assez de contacts. Et donc, j'avais quand même cette sécurité des stages. Mm-hmm. De l'école. Et en fait, la troisième année se faisait en alternance avec, bon, normalement, c'était avec une marque. Donc, les filles travaillaient en magasin pour des marques et une semaine par mois, on allait à l'école. Sauf que moi, après mon stage avec Armani sur les Champs-Élysées, ils se sont rendus compte, cette fille, elle est vraiment très douée en anglais. Elle peut vendre du maquillage et donc on veut l'embaucher. Donc moi, j'ai fait mon stage avec Armani pendant la deuxième année. Je me suis rendu compte que la vente n'était pas pour moi. D'être en magasin, j'étais au printemps au stand, sur le stand Armani, ce n'était pas pour moi. J'ai fait ça pendant 6 mois et basta, c'était fini. Et donc en troisième année, j'ai eu la chance, en fait, j'ai eu un stage pour Mozart, l'opéra rock. Je ne sais pas si tu te souviens de ça.
Oh, wow.
Ouais,
okay.
En 2009-2010. Et donc, c'est une comédie musicale. Mm-hmm. À l'époque, les comédies musicales étaient vraiment très populaires, très... voilà, les chansons passaient à la radio, il y avait des clips, c'était vraiment tout un truc. Et ça s'est un peu perdu, je pense, depuis le temps. Donc, en fait, voilà, donc j'étais stagiaire maquilleuse pour Mozart, l'opéra rock, une grande comédie musicale au Palais des Sports, à Porte de Versailles, à Paris. Et donc, j'étais avec eux pendant plusieurs mois. Et ma chef maquilleuse à l'époque, elle m'amenait avec elle sur les plateaux télé. J'ai fait les clips, musique pour le spectacle. Et en fait, ça a tout lancé, ça a tout commencé. C'était vraiment incroyable. Et donc, j'allais à l'école une semaine par mois, mais je travaillais déjà sur ce spectacle et sur les plateaux télé et ça m'a un peu lancé. L'année d'après, j'étais plus à l'école, j'étais embauchée en tant que maquilleuse, pour le coup, j'étais plus stagiaire pour la deuxième année de Mozart. Et donc, j'ai retravaillé avec eux. Donc, je travaillais pareil sur les plateaux, je travaillais sur d'autres spectacles, tout ça. Et en fait, après ça, ma carrière a un petit peu... Bon, j'ai eu des hauts et des bas. Hein. Je fais ça depuis plus de 15 ans. Forcément, il y a des hauts et des bas en tant que freelanceur. Tu sais ce que c'est.
En fait,
ma carrière a évolué. Bon, avec les réseaux sociaux, avec Instagram, ça a tout changé. Maintenant, je me retrouve à devoir faire du marketing, du business, de ci, de ça, qu'à la base, je suis une artiste. Mm-hmm. Donc, j'ai dû apprendre plein de choses. Et maintenant, ma carrière est Bon, je travaille toujours un peu avec les productions, je fais un peu de théâtre, mais j'ai beaucoup de clientes privées. Je travaille beaucoup avec les étrangères, les étrangers, les productions étrangères, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je ne voulais plus travailler avec les Français, je voulais travailler qu'avec les
Tiens,
étrangers
tiens.
en anglais. Ouais, bizarre, non? Oh, tu trouves ça bizarre, non? Ça. J'ai appris beaucoup de choses, mais c'est la façon de travailler. Bon, on va dire que pour ça aussi, je suis plus américaine. Je suis une bosseuse et je n'apprécie pas trop travailler avec des personnes qui ne le sont pas. Voilà. Et donc, moi, maintenant, je fais beaucoup
Tu prêches une convaincue, hein?
de quoi?
J'ai dit, tu prêches une convaincue. Moi, ma clientèle, elle est étrangère, hein? Les
Ouais.
personnes qui veulent apprendre le français. J'ai pas
Voilà.
de, je travaille pas avec des Français. Si, je travaille avec l'équipe du podcast et tout ça, c'est des Français, mais qui
Oui.
sont géniaux. Je les adore. Les filles,
Pardon.
je vous aime.
Oui.
Vous allez me lire et m'écouter et tout ça.
Il y en a qu'on aime, hein. C'est pas tout le monde, mais non, non, non.
Oui, bien sûr.
Voilà, donc voilà, tu peux comprendre. Et en fait, ma carrière
Très bien.
je suis plus épanouie maintenant. Bon, tout ce que j'ai vécu au début de ma carrière, j'ai énormément appris, ça m'a beaucoup aidé, j'ai appris plein, plein de choses. J'ai eu une bonne formation, vraiment, des bonnes bases dès le début. Et je continue à pratiquer ça, ce que j'ai appris au début. Ça, en fait, ça m'a formée en tant qu'artiste. Et maintenant, l'artiste que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ça. Mais voilà, ma carrière a changé et pour le mieux. Je suis assez heureuse.
Tu disais que tu avais des clientes ou des clients étrangers. Qu'est-ce que tu offres comme service?
Alors, je fais pas mal de choses. Donc, bon, des choses, bon, on va dire du maquillage classique beauté, donc pour les shootings photos. Donc, pour les personnes qui viennent à Paris et qui font des shootings photos devant la Tour Eiffel, au Louvre, sur les quais de Seine, très jolies. Moi, je maquille et je coiffe pour ces personnes-là, pour préparer avant la séance photo. Les mariages, comment on dit, les destination weddings, donc beaucoup d'étrangères qui se marient avec des Français dans un joli château en France quelque part. Mais elle a besoin de quelqu'un qui parle anglais parce qu'elle est plus à l'aise. Donc j'ai beaucoup de mariées étrangères parce que pareil, les mariées françaises, elles se maquillent pas trop. Ça c'est un autre sujet pour un autre jour, Yasmine. J'ai pas le temps. Et je fais aussi. Bon, je travaille beaucoup avec la communauté expat en France, donc les expats qui vivent ici en France pour les événements, des photos pour leur book, par exemple, ou c'est des professionnels. Ils ont besoin des photos professionnelles pour leur site. Je fais aussi les consultations maquillage, du personal shopping. Personal shopping, not personal shopping, personal shopping pour les gens
Personnel
aussi,
shopping.
personal shopping, voilà, et les cours de maquillage. Donc, je vais, par exemple, on va se voir, toi et moi, tu vas me dire ce qui ne va pas dans ta routine, dans tes produits, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Et moi, je vais dire, bon, je pense, je vais t'écouter et prendre en compte ton budget, ta vie, ta routine, ton boulot. Et je vais en fait, créer une routine avec des produits qui vont t'aider à avoir un résultat, comment dire, le moins d'efforts possible avec le plus de résultats possible, si c'est clair. Je sais pas si c'est clair.
Oui, c'est clair.
Et en fait, donc, je vais t'amener faire du shopping avec moi, dans les magasins ou même en ligne, parce que je fais beaucoup depuis le Covid, depuis le confinement, je fais beaucoup en ligne aussi, donc par un Zoom, on fait du online shopping. Et en fait, comme ça, tu as les produits exacts. Il n'y a plus de stress à comment choisir les produits, quelle couleur choisir, qu'est-ce qu'ils vont, voilà, tout ça. Donc moi, je choisis pour toi. Et après, on se revoit pour un cours pour apprendre à comment mettre les produits et de quelle façon. Voilà. Donc,
Oh
voilà. Donc, en ligne et en personne, pour les personnes qui ne vivent pas en France, en ligne, c'est toujours un bon moyen. Donc, des cours, du shopping, du
parce
maquillage.
que ça, c'est super intéressant parce que en fait, par exemple, je me maquille pas beaucoup, par exemple, et
Ouais.
donc si je rentre chez Sephora,
C'est stressant.
Limite, ça me stresse.
Ouais.
Tellement il y a de choix. Je dis, mais, et... Dieu, mais comment je vais faire? Ouais. Et toujours.
Tu n'es pas seule. Et en fait, j'ai eu, donc, comme j'ai raconté, j'ai de l'expérience. J'ai travaillé dans les Sephora, je sais ce que c'est, je sais comment ça se passe derrière, si tu veux, derrière les portes. Ils ont toujours des produits à booster. Ils ont toujours une marque par jour à booster. Donc, si toi, tu rentres dans un Sephora, tu dis « Ah, j'ai besoin d'un fond de teint », si eux, ils ont besoin de vendre du Dior, ils vont te vendre du Dior. Et c'est pour ça, moi, la vente, ça n'a toujours jamais été mon truc parce que moi, j'écoutais la cliente et je ne vendais pas forcément ma marque parce que je me disais « Bon, ce n'est pas adapté pour elle, on va aller ailleurs ». Et donc, tu n'es pas la seule. Et du coup, c'est pour ça que je fais les shoppings et les cours. C'est parce que c'est pour enlever ce stress. Parce que moi, je ne travaille pas pour une marque. Je travaille avec beaucoup de marques. Du luxe comme du grand surface, du drugstore, comme on dit en anglais. Donc, tous les niveaux, tous les prix. Et je m'adapte vraiment à la personne. Et moi, c'est souvent mes clientes, elles sont comme toi. Elles ne se maquillent pas beaucoup. Donc moi j'ai un style très parisien dans le sens où j'ai un style très naturel, je maquille très naturellement et ma clientèle c'est souvent des femmes comme toi qui se maquillent pas trop. J'ai beaucoup des mamans, des nouvelles mamans qu'elles se sentent un petit peu perdues, elles se retrouvent plus, elles veulent se sentir belles, ou des professionnelles, elles n'ont pas le temps. Elles ont besoin de quelque chose d'efficace et rapide. Voilà. Donc, moi, j'adore faire ça.
Personal shopping et cours de maquillage. Et par exemple, pour les shootings photos, donc tu as dit que tu faisais aussi des shootings. Par exemple, une cliente qui te contacte, tu contactes après le photographe ou comment ça se passe?
Non, alors souvent pour les shootings photos, souvent... ils ont déjà trouvé leur photographe et c'est soit le photographe qui donne mon nom ou ils cherchent à part et on me retrouve sur Instagram ou sur Google grâce à mon site. Et donc, ils vont taper genre maquilleuse Paris et hop, ils vont me retrouver. Mais souvent, ils ont déjà trouvé le photographe. C'est souvent dans ce sens-là. Ils bookent le shooting et ensuite, ils bookent le maquillage. Et je fais aussi une autre chose qui est quelque chose de très populaire avec les étrangères, c'est le bal masqué à Versailles. Je ne sais pas si tu connais, tu as entendu parler du bal masqué?
J'en ai déjà entendu parler.
Donc, c'est en fait, Versailles, ils font deux grands événements et moi, je suis spécialisée dans le 18e siècle. Donc, maquillage et coiffure style Marie-Antoinette, rococo, baroque. Et donc, je prépare les clientes pour ces événements.
Est-ce que tu peux parler un petit peu de l'événement, en quoi ça consiste?
Oui, donc il y a deux grands événements à Versailles tous les ans, au printemps. Et donc il y a la fête galante au mois de mai. Donc ça, c'est fin mai. Et ça, c'est une soirée qui va de 19h à minuit, par exemple, dans le château, dans les chambres et dans le... j'ai oublié le nom. Truc de miroir là, le couloir des miroirs, il y a un nom, oui, galerie des glaces.
Allez. Voilà, j'allais dire galerie des glaces, mais non, c'est une salle de concert.
C'est pas le miroir, le couloir de miroir, non, mais il y a beaucoup de miroirs. Donc, ça, c'est en tout cas la fête galante. Donc, c'est une soirée déguisée, mais bon, déguisée, c'est pas, je trouve que c'est pas assez. C'est en fait, il faut être vêtu d'un costume d'époque. Donc, un robe d'époque ou si on est un homme, genre Louis XIV ou Louis XVI, donc un costume déguisement, si on veut, d'époque. Et la soirée se passe dans le château. Il y a la musique baroque, il y a des cours de danse baroque. C'est vraiment incroyable. Deuxième événement, c'est le bal masqué. Et ça ne passe pas dans le château même, mais ça se passe dans les jardins et dans l'orangerie. Qui est, il fait partie du château, mais c'est une salle immense, vide, en fait. Et ça commence à 23h du soir et qui va jusqu'à l'aube. Et c'est une soirée déguisée, pareil, il faut s'habiller en époque et il faut porter un masque. On n'est pas obligé d'être aussi traditionnel, si tu veux, dans le costume que la fête galante. Donc, on peut s'amuser un petit peu, prendre quelques libertés avec le costume. Et en fait, la musique est moderne, il y a un DJ. Donc, c'est une fête moderne, mais dans le style rococo. Un peu comme le film de Sofia Coppola, Marie-Antoinette, où il y a la musique moderne, mais dans le style Versailles. C'est le bal masqué, c'est un peu ça. Alors que la fête galante, c'est un petit peu plus traditionnel. Mais les deux soirées sont incroyables, magnifiques. Et donc, moi, je vais, je maquille et je coiffe les personnes pour ces soirées-là, dans le style Marie-Antoinette.
Trop bien.
Ouais, c'est cool. J'adore. Et moi aussi, j'y vais. Je suis allée trois fois au bal masqué. C'est trop bien.
Je ne l'ai jamais fait, c'est sur ma liste.
Oh, yes, il faut le faire.
Yes.
Oui. Oui, pardon, oui, oui.
Jolie, j'ai une question pour toi. Tu penses en quelle langue?
Dans les deux langues, ça dépend. Ça dépend du sujet. Donc, c'est une bonne question. Je me souviens, donc, quand je suis arrivée, je pense que j'ai commencé à rêver en français peut-être au bout de un an. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, c'est bon, je suis bilingue, ça y est, je rêve dans les deux langues. Mais je ne sais pas trop quand c'est... Bon, quand je pense dans les deux langues, je pense que je... Parce que souvent, ça m'arrive, je suis en train de, par exemple, écrire un SMS en français ou en anglais, on va dire. Et si je veux écrire le mot « the », donc l'article « the », je vais écrire « la » ou « le ». Mais je vais penser « the », mais je vais écrire « le ». Ça m'arrive souvent. Et puis, pareil, en parlant, parfois, il y a des mots de l'autre langue qui vont sortir dans le mauvais accent. Donc, si je parle anglais, je vais avoir un mot français qui va sortir, mais je vais le prononcer avec un accent américain. C'est très bizarre. Donc, en fait, les deux langues vivent dans ma tête.
Tu sais ce qui m'est arrivé?
Ouais.
L'autre jour, j'étais en train d'écrire un texto et j'ai écrit, c'était en anglais et je devais écrire the et j'ai écrit de. Et j'ai dit non, Yasmine, ça va pas du tout, quoi.
Comme quoi là, donc tu comprends.
Oui, je comprends. C'est pour ça que je voulais rebondir parce que je comprends très bien ce que c'est. Donc. Oui.
Et puis parfois, il y a des phrases dans une langue qui vont être mieux que des phrases. Genre, si tu parles anglais, je vais vouloir dire une phrase française parce que c'est plus clair pour moi pour m'exprimer. Je dis, mais cette phrase en français, elle est mieux que le dire en anglais. Mm-hmm. Mais je ne peux pas traduire parce que parfois, ça ne traduit pas une phrase, une expression. Donc, parfois, je suis obligée de m'exprimer dans les deux langues dans une seule phrase. Donc, si la personne ne parle pas français, c'est pas génial. Mais je pense que toi et moi, on parle comme ça souvent. Dans la même phrase, on aura les deux langues.
Ah, moi, si je sais que tu parles les deux langues, t'es foutue. Ouais. Hein. Moi, je vais tout mélanger. Hein.
C'est ça.
Ouais, je vais pas... Oui. Donc, je vais te placer des trucs en français, machin, pour aller plus vite. Ouais. Genre, you need to see this lettre recommandée avec accusé de réception, quoi.
Voilà, exactement. Avec ma mère, souvent, on mélange. Et on se demande, les gens autour de nous, mais elles sont françaises ou elles sont américaines? Parce qu'elles parlent vraiment bien les deux langues. Et souvent, on se demande, mais... On a dit ça dans quelle langue déjà? On parle dans quelle langue? On sait pas trop, parce que c'est pareil dans nos têtes. On mélange, toujours.
Oui, il y a des personnes qui vont dire, ah, ils se la pètent parce qu'ils parlent anglais et tout, franglish. Mais c'est bien le franglish, moi j'aime bien.
Moi j'aime bien, aussi.
Joline, yeah. Avant de te laisser partir, j'ai toujours la même question pour mes invités. Moi. Pour une personne qui apprend le français ou qui aimerait parler français, quel conseil tu pourrais donner?
Oser. Oser parler. Oser. Non, mais c'est vrai. Ne pas avoir peur de faire de fautes. Ne pas avoir peur de ton accent. Ton accent, ça fait partie de toi. Et c'est pas grave si tu as un accent. ose parler. Même si tu gères pas la grammaire, même si tu connais pas tous les mots, c'est pas grave. Il faut oser. Voilà, faut pas avoir peur. Et si on a l'opportunité d'avoir une expérience immersive, si on veut, genre venir en France, vivre quelques mois pour apprendre, ça c'est super. Mais il faut avoir des amis français ou avec qui parler français, parce qu'on peut très bien partir, venir en France quelques mois et ne jamais apprendre un mot parce que tu vas te faire des amis avec qui tu parles anglais ou ta langue maternelle. Et ça, ça ne va jamais marcher. Mm-mm. Donc, d'être vraiment entouré de français et de parler français tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est extrêmement fatigant, mais ça vaut le coup. Il n'y a que comme ça qu'on peut apprendre. Mais c'est vrai, non, t'es pas d'accord?
Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ah si, si, faut se forcer.
Faut se forcer, c'est vrai, faut se forcer.
Mais c'est comme ça que ça marche, hein, parce que c'est tellement facile de parler de la langue maternelle.
Prendre des cours, c'est super, c'est des bases, c'est génial, mais c'est la conversation. Il faut parler avec les autres. Voilà, c'est très important.
Joline, pour les personnes qui ont envie de te suivre et qui ont envie de continuer cette conversation avec toi, ou peut-être faire du personal shopping un cours de maquillage, où est-ce avec qu'ils plaisir. Peuvent te contacter?
Alors, soit sur Instagram, donc c'est Makeup by Joline. Oui, désolée, c'est en anglais, c'est pas français. Et c'est Joline écrit avec deux E, donc attaché, donc J-O-L-E-E-N et pas E-N-E. Et aussi sur mon site jolineemory.com. Voilà, tout simplement. C'est les deux moyens le plus sûrs de pouvoir me contacter. Voilà.
Magnifique. Je mettrai de toute façon les liens dans les notes de cet épisode, comme ça les personnes pourront te contacter. Joline, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'était trop cool.
Merci. C'était un plaisir.
Tu veux continuer cette conversation avec moi? Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu. À bientôt!